Le journal des Amériques et d'Haïti est présenté par Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui, le show Donald Trump hier à Orlando, en Floride, devant 20 000 de ses sympathisants. Le président américain a annoncé sa candidature à sa réélection et a repris ses thèmes favoris, la lutte contre l'immigration, mais aussi la grandeur de l'Amérique. Il a aussi promis la fin du rêve américain s'il n'est pas réélu. On va vous parler aussi de la visite de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Venezuela pour 3 jours, une visite très attendu sur place où la situation politique se dégrade de jour en jour. Et puis on vous parlera de cette audience aujourd'hui au Congrès américain autour de la question des réparations aux descendants d'esclaves, 155 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Aux États-Unis, Donald Trump a donc lancé hier soir sa campagne pour les élections présidentielles de 2020 sous les cris d'une foule enthousiaste à Orlando, en Floride, un état clé qu'il avait emporté en 2016. Près de 20 000 personnes ont assisté à ce rendez-vous que l'hôte de la Maison-Blanche présentait comme historique et lors duquel il a repris ses thèmes favoris. Le reportage de notre envoyé spécial à Orlando, Anne Corpet.
4 ans de plus, toute la soirée, la foule a répété ce slogan en boucle et a exulté à chaque tirade du président. À l'aise sur scène, Donald Trump a renoué avec la rhétorique de sa campagne de 2016. Danger de l'immigration, dénonciation d'un ordre mondial qui nuit à l'Amérique, attaque virulente contre ses opposants et cette nouvelle menace qui pèse sur l'Amérique, le socialisme.
Quel que soit le label qu'ils utilisent, le vote pour les démocrates en 2020 est un vote pour le socialisme radical et la destruction du rêve américain.
Donald Trump diabolise l'opposition, évoque Joe Biden l'endormi, Bernie Sanders le fou et vante finalement son bilan pour rebondir sur le slogan qui a fait son succès en 2016.
Nous allons continuer à nous battre pour les hommes et les femmes de ce pays. Avec tout notre cœur et notre esprit, notre sueur, notre âme, nous allons continuer de rendre sa grandeur à l'Amérique et nous allons la rendre encore meilleure qu'avant. Et c'est pourquoi, ce soir, je me tiens devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat en tant que président des États-Unis.
Le président évoque le miracle de l'économie Trump. Il vante sa politique étrangère, sa stratégie commerciale agressive avant de conclure.
Nous avons été bénis de Dieu avec la plus belle nation qui soit sur Terre. Et nous allons la conserver ainsi. Et ensemble, nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci Orlando. Merci la Floride.
Les 20 000 spectateurs sortent revigorés, confiants, comme Marianne, qui porte l'inévitable casquette rouge aux couleurs du président.
Il va gagner, c'est sûr. On est encore plus enthousiaste qu'en 2016, donc imaginez un peu. Je ne regarde pas les sondages. Tous les sondages se sont trompés la dernière fois. Il capte le cœur des gens.
Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a jamais cessé d'être en campagne, mais cette fois, la course au second mandat est officiellement lancée. Anne Corpet, Orlando, RFI.
La revue de presse des Amériques. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une ce mercredi, cette entrée en campagne de Donald Trump, un candidat qui, comme on vient de l'entendre, a décidé de rester sur la même ligne qu'en 2016, attaquant les démocrates, même Hillary Clinton, dénonçant le fléau de l'immigration et la fin du rêve américain s'il n'est pas réélu. Un discours très commenté ce matin dans la presse.
Oui, et s'il y a bien une chose sur laquelle l'ensemble de la presse américaine semble unanime, c'est que Donald Trump fait bien du Donald Trump. Il n'y a pas erreur sur la marchandise. Mais contrairement à la campagne de 2016, cette fois, la fusion entre le candidat républicain et son parti est totale, comme l'explique un éditorialiste du New York Times, même si une grande partie de la nation est épuisée et embarrassée par sa présidence, aspirant à la normalité, désireuse de changer de chaîne, explique-t-il dans sa tribune du jour.
Mais comme cet éditorialiste a pu le constater de ses propres yeux hier soir à Orlando, une autre partie de l'Amérique le voit comme un demi-dieu.
Et oui, Dieu l'a choisi et le protège, n'a pas hésité à lui confier, notamment un partisan de Trump plus enthousiaste que jamais. Jamais hier lors du premier discours du candidat à la Maison-Blanche. Un éditorialiste qui dit avoir compris hier pourquoi les supporters de Trump sont prêts à le suivre coûte que coûte. Il est comme un général qui dirige l'armée contre un ennemi qui doit être vaincu pour le bien de la nation. Une image qui sera dure à mettre à mal, estime cet éditorialiste. Surtout que Donald Trump sait l'alimenter lors de véritables shows, comme on a encore pu le voir hier, détails politico.
Direction le Venezuela à présent, Romain, où ce mercredi, Michel Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est attendue pour une visite de 3 jours.
Oui, l'ancienne présidente chilienne arrive aujourd'hui à Caracas, où l'attente des mobilisations d'opposants et une série de réunions avec Maduro et Guaido, annonce le quotidien chilien La Tercera. 712 prisonniers politiques, dont certains seraient en mauvaise santé, l'attendent également. Et en plus des deux dirigeants qui se disputent la présidence du pays, Michel Bachelet doit rencontrer la direction de l'Assemblée nationale aux mains de l'opposition, les hautes sphères de l'Église catholique, des professionnels de la santé, des syndicats, des victimes de violations de droits de l'homme ainsi que leurs familles et bien d'autres rendez-vous encore.
Oui, ce déplacement de Michel Bachelet est très attendu par l'opposition, Romain.
Oui, une visite de 3 jours au cours de laquelle beaucoup de choses doivent être dites, explique Susana Rafali qui travaille pour Caritas au Venezuela. Une visite trop courte, estime d'ailleurs Carlos Nieto qui dirige l'ONG Une fenêtre pour la liberté. Il aurait fallu qu'elle reste 8 jours, estime-t-il, pour être en mesure d'établir un rapport complet sur la situation dans le pays, peut-on lire dans les pages du journal vénézuélien Dos Mil Uno.
Au Mexique, Romain, alors que le président Andrés Manuel López Obrador doit se rendre prochainement à la frontière avec le Guatemala pour voir comment se déroule la mise en œuvre des nouvelles mesures pour endiguer l'immigration, et bien sur place, la situation est toujours très tendue.
Et oui, c'est ce qu'explique ce matin le quotidien mexicain La Jornada. Hier, les autorités locales dans cet état du Chiapas ont dû faire face à la grogne des transporteurs fluviaux, à qui on empêchait de transporter des personnes, de crainte qu'il s'agisse de migrants. Par ailleurs, une mutinerie est rapportée à Tapachula, dans un centre de rétention où des migrants principalement originaires d'Afrique sont détenus. La Jornada fait état d'arrestation en continu. La tension est plus que palpable, estime le quotidien. Et cette tension risque de monter encore d'un cran, selon El Universal, qui annonce une nouvelle mesure. Désormais, les chauffeurs de bus, moyen de transport très populaire et très employé au Mexique, devront contrôler l'identité de leurs passagers. Le quotidien publie d'ailleurs les nouvelles directives diffusées au sein des entreprises de transport. Une mesure qui va certainement profiter aux réseaux criminels, laisse entendre le quotidien.
Au Canada, après presque qu'un an d'attente, le gouvernement a décidé qu'il procéderait finalement à l'agrandissement du pipeline Trans Mountain, un projet très controversé, long d'un millier de kilomètres. Cet oléoduc transporte le pétrole des sables bitumeux de l'Alberta vers les ports de la Colombie-Britannique à destination des marchés asiatiques. L'ambition est de tripler la capacité. La décision survient au lendemain du vote d'une motion législative proclamant l'urgence climatique nationale. Les écologistes dénoncent l'hypocrisie du gouvernement Justin Trudeau. À Québec, la correspondance de Pascal Gricola.
En annonçant des travaux sur le pipeline dès cet été, le premier ministre canadien tente de réaliser la quadrature du cercle. Il répond au pressant besoin de l'Alberta d'avoir enfin accès à des clients en dehors de l'Amérique du Nord, puisque le pétrole partira par bateau vers l'Asie. Et il essaye aussi de s'attirer la sympathie des Canadiens qui s'inquiètent de l'augmentation d'accidents ferroviaires avec des convois chargés de pétrole. Justin Trudeau.
Aujourd'hui, plus que jamais, il faut diversifier nos activités pour rejoindre de nouveaux marchés. Et lorsqu'on doit acheminer le pétrole sur notre territoire, les pipelines sont beaucoup plus sécuritaires que le transport ferroviaire.
Les travaux annoncés permettront de tripler la quantité de pétrole acheminée dans l'oléoduc et de multiplier par 7 le nombre de pétroliers partant d'un des ports de Colombie-Britannique. Une véritable hérésie aux yeux des environnementalistes qui soulignent qu'il y a 2 jours seulement, le Parlement canadien votait un texte soulignant l'urgence climatique d'agir. Conscient de cette apparente contradiction, Justin Trudeau a promis que son gouvernement utiliserait les profits réalisés dans le pétrole pour financer des projets en énergie propre. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Avant de se quitter, Romain, un mot de la Copa América avec 2 rencontres qui se disputaient la nuit dernière. Le Brésil, pays amphitryon de la compétition, affrontait notamment le Venezuela.
Oui, et grosse déception pour la sélection Auriverde qui a concédé un nul 0-0 face à la Vinotinto, surnom de la sélection vénézuélienne. Les Brésiliens se sont vus refuser 2 buts suite à l'arbitrage vidéo. Le journal brésilien O Globo pointe le manque de créativité du Brésil et la bonne prestation défensive du Venezuela. El Meridiano, quotidien sportif sportif vénézuélien estime que le Venezuela, grâce à ce résultat, remporte un point qui vaut de l'or. Une sélection toujours invaincue dans ce tournoi et dont le rêve de franchir le premier tour reste toujours d'actualité.
Et puis autre résultat hier dans cette Copa América 2019, Romain, le Pérou s'est imposé 3-1 face à la Bolivie.
Et oui, avec cette deuxième défaite de rang, la Bolivie dit déjà au revoir à la compétition. Pour le Pérou, tout reste possible, même si le prochain adversaire est le Brésil. Et puis, puisqu'on parle de football et qu'il nous reste quelques secondes, sachez que le capitaine de la sélection cubaine, Yasmani López, a déserté la sélection après la défaite 7-0 samedi dernier face au Mexique, selon le quotidien panaméen La Prensa, rencontre qui se déroulait en Californie dans le cadre de la Gold Cup. Une information qui n'a toujours pas été confirmée par la presse officielle cubaine, précise le Diario de Cuba.
Merci Romain Lemaresqui pour cette revue de presse des Amériques. Allez, on retourne aux États-Unis avec la question des réparations aux descendants d'esclaves qui revient aujourd'hui devant le Congrès. Ce mercredi, une commission de la Chambre des représentants organise une audience intitulée « Le chemin vers la justice ». Et le jour n'est pas choisi par hasard. Le 19 juin, c'est le jour de la liberté ou encore le jour de l'émancipation qui commémore l'annonce de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis il y a 155 ans. C'est aussi un contexte bien particulier cette année, celui de la campagne pour l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis, alors que le thème avait été occulté lors de la précédente course à la Maison-Blanche. Ce sont les démocrates qui se sont emparés cette fois-ci du sujet. Un dossier de Margot Turgy.
Les États-Unis ont un terrible passé raciste. Nous devons l'assumer.
Nous dédommageons les gens quand nous leur prenons leur propriété. Ne devrions-nous pas dédommager les personnes qui étaient eux-mêmes une propriété ?
Julian Castro, Elizabeth Warren, Kamala Harris, les candidats démocrates à la présidentielle de 2020 promettent, s'ils accèdent au bureau ovale, d'indemniser les descendants d'esclaves. Certains proposent de leur faciliter l'achat d'une maison, d'autres suggèrent de leur verser directement de l'argent ou d'investir dans les études de leurs enfants. Des propositions éclectiques qui sont très bien accueillies parmi les militants de la cause afro-américaine. C'est le cas de Ron Daniels. Il dirige le groupe de réflexion de l'Institut du Monde Noir du 21e siècle.
Le plus important avec ces propositions des candidats démocrates, c'est qu'ils en parlent. Cela s'inscrit dans la longue lutte et les mouvements qui ont commencé à la fin de la guerre de sécession. Donc, c'est positif que les candidats démocrates s'emparent de cette question des réparations. Mais le plus important, c'est qu'il y a un consensus sur la façon de le faire, c'est-à-dire en soutenant le projet de loi du Congrès appelé HR 40. Quand le HR 40 sera adopté, il va permettre la création d'une commission présidentielle chargée d'étudier les propositions d'indemnisation pour les descendants d'esclaves américains.
Les candidats démocrates sont effectivement nombreux à soutenir le HR 40. Ce projet de loi, bloqué au Congrès depuis 30 ans, tire son nom d'une promesse d'Abraham Lincoln. En 1865, il rend sa liberté aux 4 millions d'esclaves américains. Et pour commencer leur vie d'homme libre, Abraham Lincoln leur promet un demi-hectare de terre chacun et une mule. Une promesse qui ne sera jamais respectée. Redéposé en janvier dernier au Congrès, impossible de savoir quand le HR 40 pourrait être adopté. Quant aux promesses des candidats démocrates, elles ne vont pas aussi loin que ce projet de loi, selon l'économiste William Darity.
Le but d'un programme de réparation devrait aussi être d'éliminer les écarts de richesse entre les Blancs et les Noirs. Aujourd'hui, les Afro-Américains représentent environ 14% de la population, mais ils possèdent moins de 3% de la richesse nationale. Donc, un programme de réparation, s'il corrigeait ces écarts, devrait créer les conditions pour que les Afro-Américains possèdent au moins 14% de la richesse du pays. Et je pense qu'aucune des propositions faites par les candidats aujourd'hui ne pourrait permettre d'atteindre cet objectif. Qu'on prenne ces propositions ensemble ou séparément.
Que leurs promesses soient suffisantes ou pas, l'enjeu pour ces candidats est avant tout électoraliste. Ils doivent séduire les Afro-Américains, comme l'explique Cécile Coquet-Mokoko, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Tours.
On sait du côté démocrate qu'il faut absolument mobiliser les électeurs noirs et les électrices noires, puisque c'est vraiment ce qui va pouvoir faire la différence pour les démocrates face aux capitaux mobilisés par les républicains pour ces élections.
Les débats autour de cette question promettent en tout cas d'être vifs. Selon un sondage américain réalisé par la chaîne CNN, 89% des Américains blancs seraient opposés à ces indemnisations. Cécile Coquet-Mokoko.
La société est tellement fragmentée, comme les gens n'habitent pas ensemble, ils ne partagent pas du tout les mêmes réalités. Et donc il y a une sorte de déni qui fait que les électeurs blancs sont extrêmement défavorables à ce type de politique parce qu'ils estiment qu'ils vont devoir payer pour des pauvres qui, selon eux, l'ont cherché en quelque sorte, n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour tenter de s'en sortir et accéder à la bourgeoisie.
L'économiste William Darity estime que le coût des réparations faites aux descendants d'esclaves pourrait s'élever à plus d'1,5 million de milliards de dollars.
Un dossier signé Margot Turgy. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone a commencé ses travaux hier à Paris.
Commission sur l'utilisation aux Antilles du pesticide chlordécone, mais aussi de l'herbicide paraquat. Commission composée de 26 membres. C'est le Martiniquais Serge Letchimy qui a été élu président. Grégory Gabour.
La commission a désormais 6 mois pour boucler son travail. Les premières auditions publiques qu'elle compte mener commenceront le 1er juillet à Paris. Elles se termineront le 12 juillet. Une autre série d'auditions est prévue en Martinique et en Guadeloupe. Ce sera à la fin du mois de septembre. Elle veut entendre divers acteurs du dossier. L'État, les collectivités, des agriculteurs, des scientifiques, car cette commission veut s'intéresser à l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation de la chlordécone et du paraquat. Cette commission veut aussi établir les responsabilités publiques et privées pour ce qui concerne la prolongation des autorisations de commercialisation de ces produits. Elle pourrait aussi s'intéresser aux raisons de l'annulation de l'enquête Madiprostate. La commission veut également évaluer la nécessité et surtout les modalités d'une indemnisation des victimes des territoires concernés. Sa mission doit se terminer le 4 décembre. À l'issue, elle rendra son rapport et ses conclusions qui seront des suggestions. Elle pourrait déclencher des poursuites judiciaires ou pourquoi pas aussi inspirer le gouvernement.
Grégory Gabour de la Première Martinique, direction la Guadeloupe et un tout autre sujet, la consommation de bananes en Europe et en France. Une consommation qui a augmenté en 2018, bonne nouvelle donc, mais malheureusement, il ne s'agissait pas forcément de bananes antillaises. Franck Aristide.
Plus 2% consommés en Europe, plus 10% sur le territoire français. La banane a eu la pêche en 2018. Ce sont au total 643 000 tonnes qui ont été ingurgitées. Mais elles n'ont pas toutes profité de cet engouement de la même façon, puisque sur le volume total arrivé dans l'Hexagone, celles originaires des Antilles n'ont représenté que 19% de part de marché, contre 52% pour celles provenant d'Afrique et des Caraïbes, et 26% pour celles d'Amérique latine. Il est vrai que l'an dernier, la production locale sous nos latitudes a été fortement impactée par le passage du cyclone Maria qui avait dévasté les champs en 2017. Du coup, dans les mois qui ont suivi, les approvisionnements ont été pénalisés. Et si les Français mangent de plus en plus de bananes, ils ont particulièrement plébiscité le bio et l'équitable. En clair, celles originaires de pays comme l'Équateur ou la République dominicaine, mais dont l'appellation bio est fortement contestée par les producteurs locaux, puisque ces pays utilisent de nombreux pesticides dans la culture du fruit jaune. Autre fait remarquable, la chute des prix sur ces produits dits bio. De l'avenir de leur coût devrait aussi beaucoup dépendre l'avenir de la banane bio de Guadeloupe, dont la production est tout juste en train d'être lancée.
Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain 14h10, heure de Paris. En attendant, n'oubliez pas notre page Facebook, le journal d'Haïti et des Amériques, et puis notre site internet www.rfi.fr. Vous allez sur la page émission et vous retrouverez le journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Claude Battista à la réalisation. On se retrouve demain. Restez avec nous dans un peu plus d'une minute, le retour de l'actualité sur RFI.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. rfimusique.com.
Sa musique a véritablement secoué l'Afrique de l'Ouest dans les années 80. Il s'est imposé avec un reggae très imprégné de rythmes africains et a réussi à faire école. Un pionnier dans son genre, Alpha Blondy. Opération coup de poing. Vanessa Blondy et plus de 350 artistes
à voir, à lire, à écouter
sur rfimusique.com.